franceinter.fr.
La revue de presse avec Philippe Lefébure. Bonjour Philippe.
Bonjour. Que c'est dur d'être un beau gosse, Laetitia. Alors je ne parle pas de moi, ni d'ailleurs de ces hommes politiques beaux gosses évoqués dans l'Express cette semaine. Ceux qui nous gouvernent, beaux, jeunes, intelligents, du Canadien Justin Trudeau à l'Allemand Christian Lindner, en passant par Emmanuel Macron, ils redéfinissent, affirme l'hebdomadaire, les codes du pouvoir. Non, le beau gosse qui lui se méfie de sa condition et qu'on va évoquer quelques instants, c'est Kevin Mayer, le français décathlonien, se lance aujourd'hui au championnat du monde d'athlétisme et après sa médaille d'argent au JO de Rio l'année dernière, il fait figure cette année aux mondiaux de favoris, nous expliquait Franck Ballanger dans le journal de 8h tout à l'heure. Alors, Kevin Mayer, il est jeune, 25 ans, grand, 1m86, il pèse entre 82 et 83 kilos selon les portraits. Il est donc beau, un look de surfeur, mais il n'en peut plus qu'on lui parle de ça. Le JDD, par exemple, qui est venu le rencontrer, était prévenu, pas de photo en enlevant le haut. Pareil pour l'équipe magazine et rebelote ce matin dans Le Parisien. Kevin Mayer doit se justifier. Enlever mon t-shirt, c'est un réflexe quand je finis mon décathlon. Ce n'est pas pour me montrer, c'est une pulsion qu'il faut que j'essaie de calmer. Dans l'équipe mag, ça donnait, je fais plus attention à mon image désormais. Je ne veux plus qu'on s'intéresse à ce que j'ai. Je veux qu'on s'intéresse plus à ce que j'ai dans la tête. Il faut que j'arrête de poser torse nu. Alors le Parisien essaie de l'emmener sur d'autres terrains. La politique, par exemple. Mais finalement, c'est de son sport qu'il parle le plus et le mieux, le décathlon, dit-il. C'est une souffrance, mais aussi un cadeau. Un sport méconnu. Peu de personnes peuvent citer les 10 disciplines du décathlon, s'amuse à l'équipe magazine. Alors, je me suis obligé de les citer. Du coup, 100 mètres, longueur, poids, hauteur 400 mètres, ça c'est pour aujourd'hui. 110 mètres haies, disque, perche, javelot et pour finir, le 1500 mètres, ça c'est pour demain à Londres. Peu de fans, donc. Kevin Mayer semble s'en contenter. Mon sport inspire le respect. Ça, c'est beau. À la fin d'un déca, tous ceux qui l'ont suivi sont en larmes, aussi fatigués nerveusement que nous. Je préfère un petit mais un beau public plutôt qu'un gros public de cons. Alors sur ses performances, quand même, il faut en parler avant de passer à autre chose. Kevin Mayer livre son secret, lui qui a touché à beaucoup de sports, y compris le surf. J'ai toujours trouvé les décathloniens bourrins, puissants mais sans technique. C'est clairement là-dessus que je les fume. Ma réflexion technique est plus poussée. Lui non plus ne veut pas être enfermé dans une case, dans une catégorie pour lui, celle de l'acteur communautaire. Lui, c'est un beau gosse quand même. Hein. C'est à Rahim, à la une de JQ qui vient de sortir, datée de septembre. Ben oui, ça s'approche. Tahir Rahim infiltre l'Amérique, c'est la une du mensuel. Marie-France Etchegoin est allée le rencontrer à New York où l'acteur français, le petit gars né à Belfort, tourne actuellement dans une série dont on va, semble-t-il, beaucoup parler. The Looming Tower raconte le travail d'un agent du FBI, seul officier arabophone à New York en 2001 et qui va remonter au péril de sa vie les réseaux de la nébuleuse Al-Qaïda. Cet agent a existé. Il a raconté son histoire dans un livre best-seller. Tahir Rahim, donc, a le rôle titre dans cette série américaine. C'est une performance, mais à JQ, il raconte. Son agent était surexcité quand la proposition pour une série sur les attentats du 11 septembre 2001 est arrivée. Mais lui affirme avoir hésité. Marie-France Etchegoin, qui signe donc le papier, se demande si vraiment on peut faire la fine bouche face à une telle proposition. Beaucoup se tailleraient les veines pour ajouter cette ligne à leur CV. La journaliste accompagne l'acteur dans sa pause cigarette et Tahir Rahim finit par s'expliquer depuis Un prophète, le film de Jacques Audiard qu'il a révélé. J'ai refusé plus de rôles que j'en ai accepté. Il faut savoir dire non pour ne pas être prisonnier des stéréotypes. Pour The Looming Tower, Tahir Rahim était persuadé qu'on lui proposait le rôle de l'un des kamikazes du 11 septembre. Quand il a compris qu'il serait un agent du FBI, il a accepté. Quand il a vu aussi que cette série serait, pas comme tous les films sur le terrorisme, dit-il, hyper stigmatisant, rarement intelligent.
Quoi d'autre dans la presse, Philippe ?
Libération revient sur la crise de l'œuf avec un gros œuf en une. La chair de poule, c'est le titre. Page 3, François Collard du Tilleul, spécialiste de la sécurité sanitaire, décrypte cette crise. Le fipronil est modérément toxique, mais l'accumulation de la dose peut poser un vrai problème. Or, il est aussi présent dans de nombreux insecticides domestiques ou pour les animaux. Pour lui donc, il est important de savoir depuis combien de temps cette fraude au fipronil perdure, sans doute depuis plusieurs mois. Pour cet expert, en tout cas, c'est l'Europe qui dysfonctionne. Elle n'a pas les moyens d'une politique sanitaire à la hauteur du commerce international qu'elle promeut. Le problème, c'est que l'essentiel de ce que nous avons en commun, c'est le marché, qui est aussi un marché commun des risques. Dans le registre « Fais-moi peur », le Figaro annonce en manchette la forte hausse des cambriolages en France, plus 4% d'un an. Selon le calcul du journal, ça donne un cambriolage toutes les deux minutes. Plus rigolo, même si ça ne fait pas rire du tout l'éditorialiste de l'Opinion qui nous révèle cette affaire. Olivier Auguste raconte, la Cour de cassation vient de se pencher sur le dossier d'un automobiliste verbalisé pour s'être garé devant chez lui. Ce stationnement ne gênait le passage ni des piétons ni des autres véhicules, mais celui possiblement des voitures entrant ou sortant de la propriété du prévenu. En clair, explique l'Opinion, avec sa voiture, notre homme risquait au pire de s'empêcher d'utiliser son propre garage. Mais comme l'article R417-10-3-1 du Code de la route ne prévoit aucune exception à l'interdiction de se garer devant les entrées carrossables, il a été condamné. Pour Lee Auguste, qui ne rigue pas du tout, ce cas est symptomatique d'une administration qui justifie son hypertrophie en produisant règlements, procédures, obligations, interdictions, puis réclame encore plus de moyens pour sanctionner leur non-respect. Chacun jugera. Je n'ai plus beaucoup de temps pour vous parler de ce beau et long papier que consacre Vanessa Schneider dans M, le magazine du Monde, article sur ACT UP. À l'occasion de la sortie dans une dizaine de jours du film primé à Cannes, 120 battements par minute, réalisé par Robin Campillo. ACT UP, un militantisme cannibale, écrit la journaliste. Dans cette association fondée en 89, connue pour ses actions coup de poing dans la lutte contre le sida, on lutte, on travaille, on sort, on s'engueule, on baise, on sème, on vit. C'est une famille soudée contre le reste du monde à laquelle on devait tout donner ou presque. Pascal Loubet, co-fondateur, raconte « Quand un type arrivait en disant « ça m'intéresse de m'engager, mais je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer », je lui répondais « eh bien, barre-toi, petite conne ». À la sortie de la projection du film en avant-première, où Vanessa Schneider est venue chercher des témoignages, les yeux étaient rougis, il a fallu quelques verres de vin ou quelques pintes de bière, de la musique à haut volume pour qu'on se remette à parler. Que reste-t-il de cette bande de malades, à tous les sens du terme? Des souvenirs éprouvants, terrifiants, infiniment tristes, la conviction aussi d'avoir été utile à lire dans le magazine du Monde dès ce soir.
Merci Philippe Lefebvre. Patrice Van Hersel, vous avez connu cette période, les années SIDA, vous en avez parlé dans Actuel.
Oui, c'était à l'époque, c'est cataclysmique, on s'imagine que ça va détruire l'humanité. Et heureusement, la trithérapie est arrivée assez vite, on le dit après coup. Mais à l'époque, moi, ça m'avait énormément chahuté parce que je m'étais retrouvé aux États-Unis dans un séminaire mené par une femme admirable qui s'appelait Elisabeth Kübler-Ross j'avais fait le début de la formation, en fait, des soins palliatifs, si vous voulez. Mais c'était avec des gens qui étaient en train de mourir du sida, parce qu'on en mourait...
Rapidement, d'ailleurs, dans l'article qui était paru dans Actuel, il était dit « j'ai commencé l'article depuis, il y a trois personnes qui sont mortes ».
Exactement, exactement. Et donc, ça a ébranlé énormément de gens, mais ça a fait bouger les lignes. Ce qu'on appelle les soins palliatifs, et qui est une autre façon d'aborder la fin de vie, doit beaucoup, en fait... à la première vague de ceux qui sont morts du sida, qui étaient, il faut le dire, plutôt des gens plus privilégiés en moyenne. Mmh. Je parle de l'Occident, je ne parle pas des gens qui avaient le sida en Afrique, évidemment.
Mmh. Patrice Van Hersel est avec nous sur France Inter. Vos questions tout de suite au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Merci Philippe Lefebvre pour la revue de presse.